Trintignant Jean-Louis Xavier, né le 11 décembre 1930 à Piolenc, Vaucluse. Artiste dramatique, marié, bon père, bon mari, bon pied, bon œil pas terrible.
Dans cette série autour du cinéma, premier volet d'une double visite au clan Trintignant. Aujourd'hui, le père Jean-Louis. À 90 ans passés, retiré dans le Gard de son enfance depuis longtemps, il ne tourne plus. Il fait partie des stars qui ont côtoyé les plus grands. Bonjour et bienvenue dans cette 24e visite de la saison 4 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. En mars 71, l'ORTF était venu l'interviewer chez lui.
J'ai jamais eu vraiment de vocation d'acteur, non. Quand j'étais enfant, je ne me disais pas quand je serai grand, je serai acteur.
Pas du enfant, tout. Mais à l'âge de 15-16 ans.
Non, à 15-16 ans, si j'avais envie de faire un métier artistique, mais j'étais
mais
beaucoup
plus...
Mais
quoi particulièrement?
Mais j'étais tenté davantage par la sculpture. J'aurais voulu être sculpteur. Je trouve que c'est beau. On travaille avec ses mains. J'aurais voulu être peintre, musicien. Mais j'étais pas doué pour la musique, j'étais pas doué pour la peinture. Alors je suis devenu acteur parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile.
En 1956, il a 26 ans et tourne ses 4 premiers films, dont le deuxième long métrage d'un jeune cinéaste, Roger Vadim, et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot.
Je voudrais te parler.
Moi, je suis assez maladroit et timide avec les femmes, alors c'est pas...
Elle vous a mis un peu en confiance.
Oui, ça m'a mis un peu en confiance, mais il y a longtemps que j'ai perdu cette confiance.
Avec Laurent Delahousse, le week-end sur France 2, quelque part dans les années 2000.
Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il y en a un que j'ai vraiment, vraiment encore en tête aujourd'hui. Ah, Jean-Louis, c'était quelque chose.
Ouais, ça a dû faire plaisir à son mari, parce que...
Je pense. Elle avait ce mot Jean-Louis, ce prénom qui était encore là.
Arrête! Bouge pas.
Imbécile, tu ne comprends pas qu'elle t'aime.
J'avais tourné dans Et Dieu créa la femme, mais on m'avait pas remarqué. Non, c'était Brigitte Bardot surtout qu'on remarquait. Elle était remarquable.
Très vite, vous vous êtes rendu compte que le star system, ce que ça imposait d'être amoureux de Brigitte Bardot, ce que ça pouvait imposer.
Moi, j'étais en plus provincial, je ne connaissais pas du tout les gens de cinéma, je n'étais jamais allé à Paris. Alors vraiment, c'était une découverte. J'ai eu beaucoup de chance. Hein.
J'ai dû faire 25 films avant, ou 27, je crois, avant Un homme et une femme, qui m'a permis de passer à un autre échelon. Mais jusque-là, je faisais des films où j'étais sûrement moins bien payé que les machinistes ou électriciens des films.
Il parle longuement dans une interview documentaire de Sandrine Dumaret vers 2011, alors qu'il est au théâtre avec l'accordéoniste Daniel Mille. Un homme et une femme, c'est d'abord une rengaine.
Ce qui était intéressant, c'est que c'était un film un peu d'amateur. C'était un petit film, il y avait, je crois, 6 personnes pour faire le film. C'est-à-dire que tout le monde faisait un peu tout. Lelouch était metteur en scène, il avait écrit le scénario et il tenait la caméra. Et il avait un opérateur, un chef opérateur qui s'appelait Pouget, Patrick Pouget. C'était un grand type costaud. Il n'y avait jamais la caméra sur pied. C'était toujours lui, il se baladait avec la caméra, il s'asseyait, tout ça. Et des fois, quand il voulait faire un panorama ou un travelling, et Patrick Pouget savait, il se mettait entre ses jambes et il le portait. Et puis, il lui faisait faire des mouvements. C'est pour dire que c'était vraiment... Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas un projecteur, ni rien. Alors, parfois, quand il n'y avait pas assez de lumière, il tournait en noir et blanc, parce que la pellicule est plus sensible, était... Peut-être moins maintenant, mais était plus sensible en noir et blanc. Voilà. C'est pour dire que c'était un film vraiment, mais artisanal. C'était amusant, moi, ça me plaisait énormément. Nous, les acteurs, on faisait le clap, et puis on se mettait en place et on jouait notre scène. C'était vachement sympa. Il y a une spontanéité, il y a une fraîcheur, il y a même une naïveté qui est jolie. un goût du cinéma quand même. Et à partir d'Un homme et une femme, je suis devenu un comédien, oui, sur qui on pouvait monter un film, un comédien important.
Jean-Louis Trintignant, est-ce que vous considérez aujourd'hui à 40 ans, après le nombre de films que vous avez faits, comme une vedette?
Non. Comme une star. Je me considère... Non, pas... alors encore moins. Pourquoi? Je me considère comme un étudiant. Parce que c'est mon esprit, parce que si j'étais plus étudiant, ça ne m'intéresserait plus.
Et vous étudiez quoi?
J'étudie l'art dramatique.
Depuis combien d'années maintenant?
Moi, il me faut 20 ans, là où d'autres mettent 2-3 ans à comprendre des choses. Moi, je suis très très lent, je commence à peine à devenir pas mal maintenant, mais j'ai été très long, j'ai été un très mauvais comédien pendant des années. J'ai commencé à jouer même, mais je ne le méritais pas, j'étais très mauvais.
Il put échapper à la guerre d'Algérie, mais pas au service militaire, ce qui le marqua profondément. En revenant, ceux qui l'engagent le plus, ce sont les Italiens, ce qui lui va bien.
Le milieu du cinéma italien, dans les années 60, c'était au début des années 60, étaient tous des gens de gauche. Alors, où on était catholique, où on était de gauche, mais de gauche, d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'ils sortaient vraiment de l'occupation, ils sortaient du fascisme. Et tous les metteurs en scène que j'ai connus à ce moment-là, c'était tous des gens de gauche, vraiment de gauche. Par exemple, Bertolucci était inscrit au parti, il a fait des films pour le parti. Il était très, très gauche, quoi. Après, maintenant qu'il vit en Amérique, il ne doit pas s'en vanter.
Bien, alors, si on regarde la liste de vos films...
Spécial cinéma sur la RTS en 77.
La question serait stupide de vous demander si vous êtes un homme de gauche. Vous en êtes un, mais vous n'êtes pas pour une action militante. Vous êtes pour l'action isolée. Ça, ouais, encore une ambiguïté.
Oui, mais ça, alors, c'est une ambiguïté, oui, parce que oui. C'est pas tellement une notion de gauche. Oui. Une notion de gauche, ça implique forcément le
militantisme.
Un militantisme, oui. Moi, je crois, mais ça, c'est une chose qui m'est venue plus tard et qui me vient de plus en plus. Avant, je croyais qu'il fallait changer la société et que l'individu changerait. Maintenant, j'en suis moins sûr. Je crois peut-être qu'il faut changer l'individu et que c'est lui qui changera la société. Ça, c'est une notion qui est un peu délicate.
Début des années 70, il réalise 2 films.
Une journée bien remplie, c'est l'histoire d'un type qui se lève le matin. Il y a une unité de temps, ça se passe en une journée. Et c'est un boulanger du Gard. Il fait son pain, comme tous les matins, et puis il part avec sa vieille mère en sidecar et avec des accessoires, tout ça. Et puis ils commencent à rouler et ils vont tuer une personne. Et puis ils roulent, ils en tuent un autre et ils tuent 9 personnes, c'est-à-dire les jurés de la cour d'assises qui ont condamné son fils à mort. Leur seule chance, c'est qu'on ne comprenne pas le lien qu'il peut y avoir entre ces gens-là, qu'il faut faire très vite. Puis finalement, ils se font prendre, quoi. Le dernier, ils se font prendre. C'était un truc contre la peine de mort. Je voulais que les jurés qui condamnent et qui condamnaient à mort à ce moment-là ne prenaient jamais le risque, quoi. Ça leur coûtait rien, finalement. Et pour une fois, les jurés, ça leur coûtait la vie, quoi. Ils se faisaient tuer parce qu'ils avaient condamné à mort. C'est pas sérieux, mais c'est une fable, enfin, c'est... Voilà. Mais il y avait des choses quand même pas mal. Je voulais faire une chose, je voulais pas faire de raccord. Vous savez, au cinéma, on tourne par exemple un plan sur un personnage, sur un autre, et puis on fait un plan général. Et là, je voulais pas faire ça. J'avais souvent 2 caméras, 3 caméras, c'est pas ce qui coûte cher. Mais je voulais pas qu'il y ait de raccord. Je voulais pas que les acteurs refassent la scène avec un autre objectif dans un autre angle. Je voulais qu'ils tournent la scène une fois et puis qu'après il n'est pas à raccorder, quoi. Il n'est pas à la tourner. Ça, c'était un peu une frustration d'acteur parce que ça m'a jamais plu de faire l'acteur où je tournais une scène où je me déchirais et puis après je devais faire la même chose sous un autre angle, quoi. Je trouve que si on se donne vraiment dans une scène, c'est ce que j'aime au théâtre, c'est qu'on n'a pas à le refaire, quoi.
Je l'admire, monsieur Zopoulo. Je l'aime. Non, vous dites ça parce que vous le voyez maintenant, mais...
Priali et Marielle sont dans une piscine.
Si vous l'aviez connu il y a 20 ans,
Il était comme vous et moi. Attentif, prêt à rendre service, charmant, drôle, mince, oh, facétieux, légèrement gourmand peut-être.
Oh, mais c'est pas une raison pour...
Non, mais écoutez, il a réussi. Alors c'est normal. Il profite de son argent. Il peut tout se permettre. Non, je vais vous dire une chose, monsieur Marcel. Vous savez que monsieur Sopoulos n'est pas paralysé des gens. Et comme il a les moyens, il n'a pas de raison de marcher, vous comprenez?
Le maître nageur, c'était un petit film avec des amis producteurs. Et on m'avait donné une caméra. J'avais écrit vraiment tout le film pour ça. Et une moitié du film, ça se passait dans une piscine. Et puis, j'ai tourné 3 jours comme ça, et après, on m'a enlevé la caméra. Il y a eu un grand metteur en scène américain qui l'a demandé, c'était Spielberg. Tout ce que j'avais écrit ne voulait plus rien dire parce que c'était pas tournable si j'avais pas cette caméra. J'avais appelé le film pendant tout le tournage « Les poissons détestent le vendredi ». Et c'était plus l'esprit du film. Quand le film est sorti, les distributeurs m'ont dit « Mais on croyait que c'était une blague, vous n'êtes pas sérieux quand vous dites ça ». Et ils m'ont dit « Non, on ne peut pas l'appeler « Les poissons détestent le vendredi ». On va l'appeler « Le maître nageur ». Et c'était une très mauvaise idée, parce que allant voir « Le maître nageur », les gens pensaient voir un film de Jean Giraud, une comédie, et ils étaient déçus, parce que c'était pas
je
ça.
Je ne rêve pas de jouer un rôle extraordinaire au cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des films avec des gens qui m'intéressent, mais pas du tout par rapport à un rôle. Je choisis les films que je fais par rapport à un metteur en scène, par rapport à un sujet.
C'est ce qui s'est passé avec Michel Souter. Vous lui avez écrit, c'était la première fois, et j'ai envie de travailler avec vous. Je crois que ça devait être ça, la lettre. Hein.
Ça remonte. Oui, c'était ça. Ouais. Et c'est la seule fois que je l'ai fait.
Alors, il y a eu la découverte de la petite musique de Souter, comme oui. Vous dites si joliment, avec un film. Hein,
j'ai Souter. Vu Les Arpenteurs, oui. J'ai eu vraiment un coup de foudre. Je me suis dit, mais comment peut-il arriver à faire ça? Parce que ça me semblait tellement délicat, tellement fragile. Et à ce moment-là, j'ai demandé à voir tous les films de Michel Souter que je ne connaissais pas. Et vraiment, je me suis dit, c'est prodigieux, c'est incroyable ce qu'arrive à faire cet homme. Et je lui ai écrit, je lui ai dit que j'aimerais bien comprendre comment il arrive à faire ses films et que s'il avait une place de n'importe quoi dans son film, vous pouvez m'engager comme photographe ou comme assistant ou comme n'importe quoi, même pour ce qu'il voulait. Ouais. Alors il m'a dit que c'était quand même plus pratique comme acteur.
À peu de choses près, ce qui s'est passé avec Truffaut pour Vivement Dimanche avec Fanny Ardant en 83.
Est-ce que vous pouvez m'imaginer ici, bloqué, bâillonné, avec ce téléphone qui n'arrête pas de sonner, et toutes ces rumeurs dans la rue? Bien sûr, de votre part, c'est de l'excès de zèle. Je sais que vous avez fait tout ça pour me rendre service, mais c'était à moi de mener l'enquête à Nice.
Excès de zèle ou pas, soyez certain que je n'aurais rien fait pour vous, si j'avais su que vous étiez un assassin.
Mais Barbara, qu'est-ce que...
Oui, je sais tout. Il y a 3 jours, vous avez chargé un détective de Nice de faire une enquête sur votre femme.
Mais Barbara, je n'ai pas bougé d'ici.
Oui, vous l'avez commandé par téléphone. Et en vous gardant bien de révéler votre identité. Cela prouve que vous aviez déjà des soupçons sur Marie-Christine.
Enfin, Barbara...
Entre nous, je peux vous le dire maintenant. J'ai toujours su que vous étiez un assassin. Même si je faisais semblant de croire à votre roman feuilleton. Je croyais que c'était un crime passionnel. Commis en pleine colère par un homme sincère et déchiré. En réalité, vous avez tout calculé. Tout prémédité. Et ça m'inspire le plus profond dégoût. Si je ne me retenais pas...
Non, Barbara, vous avez raison. J'aurais dû vous avouer la vérité tout de suite. Je suis coupable.
Il était très, très sympathique, hein, Truffaut. D'ailleurs, j'en ai fait qu'un et je l'ai fait vraiment le peigne dans le maillot, facile. C'était pas très intéressant, d'ailleurs, ce que je faisais, mais j'ai eu quand même beaucoup de plaisir. Je sais pas s'il a tout le temps été comme ça, mais c'était une période où il commençait à être confortable. Mais son confort, c'était pas d'accumuler le fric. Il voulait rendre la vie légère à tout le monde. Par exemple, normalement, un tournage, c'est 8 heures par jour. Il préférait qu'on fasse 6 heures et puis de renvoyer les gens après, quoi. Ou d'aller boire des coups avec. Il arrêtait le tournage avant, alors qu'il était en même temps producteur, quoi. C'était son fric. C'était vachement agréable.
Alors, il y a des choses quand même très étonnantes. Vous auriez pu faire une carrière américaine. Quand on pense que vous avez refusé de faire des films avec Coppola, Friedkin et avec Spielberg, ce qui est le rêve de pas mal d'acteurs français...
Les films rouges, le troisième de la trilogie, dont le sujet principal est fraternité. Le film a eu 3 nominations aux Oscars. Le film est très librement inspiré par le roman d'Albert Camus, La Chute.
Trois couleurs rouges de Kispersky est un film que je trouve envoûtant, assez magique. En 2013, l'ami et collaborateur du cinéaste polonais, Stanisław Zatek, nous en proposait une analyse pertinente.
Le vieux juge du film ressemble beaucoup au juge pénitent du roman de Camus. Les deux sont aussi amers et aussi résignés dans la vie.
C'est dégoûtant.
Oui. Et en plus, c'est illégal.
Si j'avais été à leur place, moi aussi, j'aurais volé, tué, menti. Mais je n'étais pas à leur place, j'étais le juge. C'est la phrase que Jean-Louis Trintignant prononce dans le film. Et cette phrase aurait pu être facilement trouvée dans les romans de Camus.
Vous n'avez jamais vu un juge en vrai ?
Les deux juges sont aussi résignés et amers l'un que l'autre, mais le juge joué par Jean-Louis Trintignant voit dans le personnage du jeune juriste son alter ego et sa possible réintégration dans le monde.
Si je devais passer en justice, vous pensez qu'il existe encore des juges comme vous aujourd'hui ?
Vous ne passerez pas en justice. La justice ne s'occupe pas des innocents.
Depuis une quinzaine d'années, Trintignant peut se permettre de faire ses choix. En 1994, c'est aussi Audiard, pas Michel, mais son fils Jacques. Regarde des hommes tombés avec Mathieu Kassovitz et Jean-Yann.
Et il me racontait qu'il avait 25 ans et il était prof de philo. Et un jour, son père lui dit « Mais arrête tes conneries de philo, fais plutôt du ciné, viens faire du ciné, il y a du fric à prendre. » C'est marrant de dire ça, non ?
Bah je sais pas, tu trouves pas ça bizarre, toi ? Tu sais, il y a un mec qui est paralysé et puis ensuite il marche.
C'est un acteur qui faisait ça. Un acteur, si tu lui dis de s'asseoir dans un fauteuil roulant, il se met le cul dans un fauteuil roulant. C'est son métier. C'est du bidon, c'est de la comédie, tu vois.
Parce qu'il se met le cul dans un fauteuil roulant, c'est du bidon ?
Ouais.
On va à Paris.
Oh merde, pas moi, moi j'ai la jambe qui est naze. Oh putain, merde, chier.
Et puis, à une semaine du tournage, Audiard a dit « Mais ça serait quand même plus intéressant si vous changiez de rôle. » Alors j'ai dit à Yann « Tu veux changer ?» Il dit « Ouais, si tu veux. » Et on a changé. Et parce que c'est vrai que Yann, dans mon rôle, il aurait fait vraiment le peigne dans le maillot, un bras dans le dos, quoi, facile. Et moi, j'aurais fait le sien facile, alors que celui que j'ai fait, c'était plus difficile. Mais c'était un mec attachant, j'aimais bien Jean-Yann. Et puis c'est vraiment, je trouve, un formidable comédien. Magnifique, hein, magnifique.
Je voulais être aviateur. L'aéronaval, c'est ça que j'avais en tête. Et puis j'ai fait dans la chaussure. Mais là, j'ai pas été mauvais non plus. Si, en fait, j'étais très mauvais, très mauvais. J'ai bouffé la boutique, comme on dit. En fait, non, c'était pas tellement vrai. Rien de vraiment indigne. Si je pouvais seulement trouver un imbécile qui veuille de la maison et tout liquider.
Ça, c'est merveilleux d'être comédien et de tourner des scènes comme ça, qui sont bien écrites avec des gens qu'on découvre. C'est magnifique. Ça, c'est un bonheur. On a une chance folle. Et c'est marrant parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, Vincent Pérez. Il est venu ici et on a bouffé après. Et il aime beaucoup aussi ce film et il aime beaucoup cette scène. Et puis même, j'ai le béguin un peu pour lui, alors que je ne suis pas du tout homosexuel. Mais dans le film, je suis un vieux monsieur et qui est quand même troublé. C'est beau, j'aime bien ça.
En 98, c'est un chéreau, choral et puissant. Ceux qui m'aiment prendront le train. Et comme il traîne et hésite à se décider...
Je devais arrêter parce que j'aime de moins en moins le ciné. Mais je ne voulais plus en faire déjà quand Chéreau m'a demandé. Quand même, ça me plaisait parce que le sujet me plaisait. Puis Chéreau, c'est un type très, très intéressant et en plus très séduisant. Il a pris le temps. Il est venu à la maison. J'habitais à ce moment-là à côté du Zest, une maison. Et il a dit qu'il partirait quand je serais d'accord. Et c'était, en même temps, c'était sympathique parce que c'est quelqu'un d'important, Chéreau. Mais c'est vrai, il m'a séduit. Et il mangeait et buvait comme nous. Et ça, ça l'a un peu choqué. Nous, on mange beaucoup. Quand je dis nous, c'est ma femme et moi. Mais on mangeait pour le plaisir, quoi. Et on buvait beaucoup. Enfin, on buvait que du vin, mais on buvait beaucoup.
Il y a un truc vachement beau en vous.
En moi ?
Vous êtes vachement beau, en fait.
Vous êtes très rafraîchissante.
Vous avez toujours cette impression que c'est sur la scène, dans les théâtres, que vous avez été le plus heureux ?
Oui. Oh oui, ça, c'est sûr. C'est moins bien payé que le ciné ou la télé, mais c'est très, très heureux, on est très heureux dans un théâtre.
Pourquoi ces textes ? Le choix, ça s'est fait comment ?
Oh oui, parce qu'il y a un esprit quand même un peu entre... Il y a beaucoup de Prévert, il y a oui. Desnos. Boris Vian, ce sont des gens, oui, et Apollinaire. Ce sont des gens que j'ai beaucoup aimés.
Et vous accompagnent depuis toujours, ces textes ?
Depuis très longtemps, surtout Prévert. Prévert, alors au début, je méprisais un petit peu, je me disais, c'est un petit poète. Mais c'est pas vrai, c'est un grand poète. Hein. Je vais vous raconter une histoire, elle est courte, hein, elle n'est pas très longue. C'est un type qui va voir un psychiatre parce qu'il est désespéré. Et alors, il raconte sa vie, elle est affreuse, en effet. Et le psychiatre lui dit, écoutez, je ne vais pas vous donner des médicaments. Il y a un petit cirque qui est arrivé et il y a un clown extraordinaire qui est drôle, qui est optimiste. Et alors, je vous conseille d'aller le voir, il vous fera beaucoup de bien. Alors, le type, il dit non. Comment non ? Pourquoi ? Parce que le clown, c'est moi.
Nous voilà presque rendus à la fin de cette 24e visite de la saison 4 du Panthéon décousu sur Radio Alpa. La semaine prochaine, nous nous intéresserons donc au reste de la famille, dont bien sûr l'excellente comédienne qu'était sa fille Marie. En attendant, la visite sera en podcast sur radioalpa.com, en écoute libre sur la page Facebook et le Mixcloud de l'émission Le Panthéon décousu. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans sa petite valise à la RTS et la voix de Trintignant qu'il met si bien au service des poètes, comme ici lors d'un spectacle de Alain Leprest, Romain Didier et Enzo Enzo, que des gens bien. Comme vous, bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa.
Il y a une chose que j'aime beaucoup quand vous parlez de votre métier de comédien. Vous dites, j'arrive sur un plateau de tournage, un comédien doit arriver avec sa petite valise.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans la petite valise ?
Il y a plein de choses qu'il a préparées pour le film. J'arrive avec ma valise, je ne l'ouvre pas. Et c'est vraiment au moment du tournage que le metteur en scène décide finalement ce qui servira dans la valise.
Il fallait se méfier de son sommeil rebelle. On aura oublié de fermer le verrou. La Méditerranée hier s'est fait la belle. Et maintenant, quoi mettre à la place du trou ? Nos larmes, nos canons, nos mégots, nos poubelles, nos peurs, nos jouets brisés, nos bouquets, nos crachats. Petit, c'est déjà fait. Petit, c'est fait déjà. Un vent chaud sur ton front chasse ton mauvais rêve. Tout est là. Les coraux, la barque et le mérou. La Méditerranée n'a pas quitté la grève. Elle ne laissera sous tes peurs aucun trou tant que ta bonne étoile il lira son reflet. Si tu y crois déjà, crois que ce sera fait.
Que tout soit dansant, que tout soit douceur, au petit pêcheur, qui est ta leçon, tapis de poisson, que tout soit douceur. Que tout soit douceur et que tout soit dansant. Que tout soit douceur au milieu du fleuve, sous la lumière neuve, un chercheur d'espoir entre ses mains noires, cueilleux de l'or blanc. Que tout soit douceur et que tout soit dansant. Que tout soit dansant. Une femme d'homme, son lait de madame, à son premier-né, que soit pardonné, ses pleurs impuissants, que tout soit douceur et que tout soit dansant.
Vous êtes sûr que vous voulez faire ce film ?
On va prendre un ton pas très sérieux, hein.